La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maurice Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.
Bonjour à toutes et à tous. Olaï Tangent Tonoukouin est notre invité sur la chronique en débat de Maudi Johnson de ce mardi 28 juin 2022. Une nouvelle réflexion de Maudi Johnson appelle à une nouvelle dissection, un nouveau décryptage. La chronique intitulée « Feu rouge, feu vert » passera tout d'abord au laboratoire de Laurent Ladouce avant d'être commentée, décryptée, décodée en studio par notre invité Olaï Tangent Tonoukouin. Dans l'élément qui va suivre, Gloria Adivesore prête sa voix à notre expert chroniqueur Maudi Johnson pour nous livrer la réflexion du jour tirée à la page 2 du journal Éducation, la parution du jour, parution numéro 442 du journal Éducation que vous pourrez également trouver dans toutes les librairies sur l'ensemble du territoire national, dans les kiosques et autres points de vente de journaux. Feu vert, feu rouge, c'est avec Gloria Adivesore qui prête sa voix au chroniqueur Maudi Johnson.
Feu rouge ou feu vert? Scandale. Je me suis fait interpeller au feu tricolore. Avais-je brûlé un feu rouge? Ou pire encore? Non. J'ai pilé au feu vert imitant d'instinct un curieux motocycliste qui s'était tétanisé au niveau de ses feux. Ma première réaction fut de croire que j'avais mal prêté attention à la signalisation routière et qu'il y avait un motif légal d'attente. Je remarquai que la circulation était fluide et que l'homme arrêté regardait au loin à sa gauche. Le décompteur des feux tricolores lui donnait pourtant un temps de passage confortable. Je compris en regardant dans la même direction l'objet de son trouble. En effet, de l'autre côté de la voie, des policiers avaient déjà arrêté un nombre important d'indélicats. Ils avaient eu le toupet d'enfreindre les règles de la circulation. Alors, malgré le retrait des policiers qui n'intervenaient pas dans la régulation de la circulation, ils se demandaient s'ils avaient le droit de passer quelle que soit la couleur du feu. Lui qui, sûrement en d'autres temps et d'autres lieux, se contentait de se frayer un chemin entre les véhicules et autres aimes au mépris de toute règle. Flairant la situation, je m'arrêtai derrière lui. Il ne me remarqua même pas. Il se demandait comment réagir, non pas face à une loi, somme toute assez vague pour lui, mais plutôt face au sachant et exécutant tout-puissant de la loi, qui pouvait décider à jamais de son sort. Ce qui devrait arriver, arriva. Les représentants de l'ordre s'approchaient et nous interpellaient, car comment comprendre que deux individus, sains de corps et d'esprit, avec la conscience tranquille, pouvaient s'arrêter devant un feu dont la couleur autorisait l'honnête homme à passer. Nous nous retrouvâmes avec la horde de délinquants sociaux arrêtés. Les policiers, après quelques questions abruptes, nous laissèrent mariner dans notre jus en attendant. Notre timoré conducteur s'approcha de moi comme cherchant une couverture. On était dans le même bateau, pensait-il peut-être. Il fallait se serrer les coudes pour se préparer à plaider et surtout trouver les moyens de soudoyer les forces de l'autre afin de sortir du piège. Il devait se dire « Seuls ceux qui ont le pouvoir connaissent et dictent la loi ». Mon calme lui donna confiance. Après quelques hésitations légitimes devant ma sérénité, il entreprit de se présenter. Il habitait quelques villages périphériques en banlieue de la grande cité. Ce menuisier venait fréquemment à la ville pour toutes sortes de petits commerces assez rentables. Il avait une peur bleue de toute autorité, chef de village, chef forestier, chef brigadier, etc. Tenez, même l'infirmier du centre de santé rural l'avait interpellé et menacé, lui reprochant de faire trop d'enfants, lui qui n'avait que 3 femmes et quelques douzaines d'enfants et demi. Et chaque fois, il devait s'arranger, donner de l'argent. Tenez, on l'avait presque emprisonné la dernière fois qu'il avait convenu avec son voisin du mariage avec sa fille, une jeune vierge au demeurant respectueuse. Des responsables d'une association soi-disant de la promotion de la femme l'avaient vilipendé et traité de tous les noms d'animaux. Vieux porc, bouc lubrique, etc. Il avait de vastes champs et il fallait de la main-d'œuvre quand même. Lui soutenait à fond le gouvernement de son pays, ne demandant rien à personne. D'ailleurs, le politicien de la localité, lorsqu'il les réunissait, parlait familièrement du chef de l'État avec lequel dînait fréquemment cet homme admirable. Bref, lui minuscule et somme toute pacifique, il voulait le demeurer tout en acceptant sans aucune once de réticence l'autorité des uns et des autres. Il sortit de sa poche un billet froissé de 2000 francs CFA qu'il voulut me glisser et demanda si cela suffisait à plaider notre cause. J'étais si captivé par le récit du pauvre R qui n'avait rien compris au principe de l'égalité et de la légalité et qui semblait une contradiction flagrante de la Déclaration des droits de l'homme. Pour lui, en réalité, il y a les forts, c'est-à-dire les autorités, et les faibles. La loi est pour les premiers. Je me demandais alors si un développement, sinon un bien-être, voire un vivre ensemble, est possible avec une société aussi fractionnée et des gens qui ne vivent pas ensemble mais côte à côte. À quoi servent ces innombrables règles si elles ne sont pas intériorisées par la masse? Ces individus ordinaires se maintiennent-ils ou les maintient-on dans la simple admiration des uniformes, des vestes et autres soutanes au lieu de les instruire même dans leur langue? L'éducation que nous prônons ne devrait se faire ni seulement en français, ni seulement dans les quatre murs des salles de classe. Les policiers débordés nous jetèrent un dernier regard, ne sachant que faire d'un farfelu et de son interlocuteur, soigné et serein. Alors, d'un vague geste, ils nous renvoyèrent qui à ses errements, qui à ses doutes et interrogations.
Merci à vous, Gloria Divessodi. Retour dans ce studio avec Jean Olaïtan Tonoukouin. Jean Olaïtan Tonoukouin, bonjour. Vous êtes notre invité sur l'émission La Chronique en débat. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi, Romuald Lobo. Merci de m'inviter sur ce plateau.
Jean Olaïtan Tonoukouin, vous avez écouté le chroniqueur Maudi Johnson. Nous sommes dans une société des forts et dans une société des faibles.
Et ça serait toujours ainsi. Excusez-moi de le dire comme ça parce que c'est le monde qui est conçu ainsi. Et depuis la nuit des temps, il y a eu toujours des forts et des faibles. Maintenant, si nous voulons véritablement avoir une société comme tout le monde, en tout cas, le voit, avec une égalité, qu'on prône les droits de l'homme et tout, et que la loi est faite donc pour être appliquée à tout individu, alors nous devons encore travailler davantage, surtout en Afrique au sud du Sahara.
Il le soulève dans sa chronique, Maudi Johnson, il parle de l'égalité et de la légalité.
Ah oui, c'est ça, c'est ce que je tentais de dire tout à l'heure. Il y a l'égalité et il y a la légalité. C'est deux mots sur lesquels nous devons véritablement jouer, et ça, ça parle de la conscience de chacun. Parce que si nous voulons véritablement, quelqu'un a dit, si vous voulez le changement, changez vous-même. Et nous devons comprendre. Et pour changer, il faut connaître. La foi vient de ce qu'on entend, on dit. Et quand on comprend, on peut mieux l'appliquer. On comprend d'abord. On comprend la chose. On s'adapte à soi d'abord. Et puis, de par vos exemples, vos faits et gestes, je pense que la société, ceux qui vous entourent, peuvent quand même s'inspirer de vous et changer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à l'école, d'écouter les gens, mais on veut éduquer aujourd'hui par l'exemple. On vous regarde faire et on fait avec vous. Parce que quand on a vous observé, vos pas et gestes, vos faits, et quand on sent quand même qu'il y a de bonnes choses qui sortent dedans, je pense que vous n'avez même pas besoin, vous avez de bons témoignages, tout le monde. On parle, on dit, ah, ce monsieur, attention, il est ci, il est ça, il est rigoureux, il est respectueux, il fait ci, il fait ça. Je pense quand même que, même sans vous connaître, d'aucuns vont vous doiter et dire, prenez l'exemple sur lui. Et je pense que c'est de cette société dont nous avons besoin aujourd'hui.
Est-ce que dans cette société que vous êtes en train de peindre, avons-nous réellement des modèles sur lesquels nous pouvons nous appuyer, tant l'autorité aussi brûle le feu, mais on ferme les yeux, parce que c'est une autorité qui passe le feu rouge, mais quand le faible y passe le feu rouge, à la suite de l'autorité, le faible est interpellé.
Vous avez dit tantôt que la société des faibles et des forts, et maintenant l'autorité qui, encore entre griffes, c'est nous qui l'appelons peut-être autorité. Si vous êtes une autorité, il vous revient de tout faire pour ne pas quand même jeter de l'opprobre sur votre personnalité. Vous savez, à l'Assemblée nationale, nous avons comme coutume d'appeler nos députés des honorables. Mais il revient à chaque député, en tant qu'individu
lambda, de prouver qu'il est honorable.
De prouver qu'il est véritablement honorable. Donc, nous les appelons les honorables en général, mais chacun de sa position doit tout faire pour mériter ce titre d'honorable. Et j'en viens pour parler de l'autorité qui brûle. Vous avez parlé, s'il y a des exemples, il y en a, et il y en aura toujours, mais en minuscule. Nous pouvons citer des exemples. Vous savez, ce qui est bien, en réalité, n'est pas à foison. C'est de minuscules groupes. La révolution a commencé par 2, 3, 4 personnes qui ont compris quand même qu'il faille véritablement passer à côté ou bien changer un peu la manière de faire les choses. De la même manière, en tant qu'autorité, il y en aura toujours qui respectent les règles, mais ils ne sont pas légion. Et si nous devons seulement regarder que voilà, c'est une autorité qui est censée connaître et maîtriser la loi et l'appliquer, ne le fait pas. Et donc nous-mêmes, en tant qu'individus lambda, qui avions quand même connaissance de ces lois-là et qui voyons ces autorités enfreindre allègrement à ces lois, dit que ben, si les autorités le font, nous-mêmes on va le faire. Je pense que notre société ira totalement à la déchéance et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Chacun doit tout faire pour mériter son nom, son titre, son honorabilité. Et pour ça, il n'y a pas autorité, il n'y a pas un citoyen lambda, c'est tout être humain. Et je pense que c'est votre nom de famille d'abord qu'il faut préserver.
Alors, vous le disiez tout à l'heure dans votre commentaire primitif, cher Jean-Olaï Tantonoukouin, comment est-ce qu'on peut être dans une société où la loi à laquelle tout le monde est assujetti, qui définit le fonctionnement de la cité, les règles de fonctionnement de la cité, eh bien, il y a la loi qui est faite pour les plus puissants et la loi également qui est faite pour les moins puissants ou pour les pas puissants du tout dans la République, parce que on a 3 catégories de personnes aujourd'hui. On a la catégorie des super puissants, on a la catégorie des plus ou moins puissants et on a la catégorie également des pas du tout puissants. Et pourtant, la loi est faite pour tout le monde.
Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi, comme on a l'habitude de le dire. Et je pense quand même que tout ça, c'est rien d'autre que une, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est une méconnaissance d'abord de soi et une perte de valeur totale de la société. Et c'est pour ça d'ailleurs que Éducation existe et s'emploie depuis la nuit des temps à travailler dans la promotion justement de ces valeurs éthiques et morales indispensables pour le développement d'abord de l'être humain et de la société.
Et le directeur général Ulrich Vital à Rotondi en fait son cheval de bataille. Il y met un point d'honneur.
Ah oui.
Et c'est des valeurs qui ne se négocient pas avec lui. L'éthique, la déontologie, les inégalités sociales à corriger dans la République. C'est beaucoup de choses, cher Olaï Tantonoukouin.
Et fier chandal à lui et à toute son équipe dont vous faites partie depuis plusieurs années. Je prends du plaisir à vous suivre. Moi également, je suis le président de l'Association des jeunes artisans pour la promotion de l'éthique et du développement.
Absolument.
Et je pense que nous militons également dans ce sens.
Absolument, vous avez beaucoup de foi au fond déjà.
Ah oui, et vous devez comprendre que ces gens de personnes qui militent pour l'application de la loi n'ont pas beaucoup d'amis. Ils ne sont pas aimés dans un premier temps parce que si entre-temps l'eau était un peu boueuse et vous venez, vous voulez donc enlever la boue, tout le monde s'y plaît dedans. D'abord, vous êtes mal vu. On vous traitera de tous les noms. On cherchera même à vous piéger, juste pour vous empêcher de continuer par éclairer les autres. Donc, vous avez tous les problèmes de ce monde. Et si vous n'êtes pas vraiment convaincu de votre combat et également avoir la carapace dure, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez un peu, vous allez rebrousser chemin. L'autre chose qui a fait qu'aujourd'hui, dans notre société, nous avons des super puissants, des moins puissants et des pas moins puissants, c'est le pouvoir de l'argent. Malheureusement, il faut le dire ainsi. On est tout le temps à la recherche du bien l'être social et le soi, l'individu passe avant l'intérêt général. L'intérêt personnel passe avant l'intérêt général. Tenez-vous tranquille lorsque vous vous mettez en groupe, par exemple, de 3 ou 4 pour monter une affaire, aller de l'avant, ou du moins pour défendre une cause noble. Vous allez comprendre que pour faire échouer peut-être ce combat, on va commencer donc par approcher les individus et leur faire des propositions. Et on regarde la faiblesse de chacun par rapport à peut-être...
On passe par le maillon faible.
Le maillon faible. Et donc, on sait qu'avec ceci, je peux l'avoir. Et une fois qu'une chaîne du maillon est atteinte, comprenez que votre combat va prendre forcément un coup, même si vous avez à l'entame ou bien au début de votre initiative, vous êtes animé d'une volonté pour faire avancer ce projet-là. Et donc, c'est ce qui malheureusement fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore à ce stade-là. Mais nous devons avoir confiance et savoir que d'un jour à l'autre, ça va changer. Si aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on n'a même plus besoin d'un policier sur la voie avant que les gens ne sachent qu'ils doivent emprunter leur couloir, ou qu'ils sachent que si je fais essai de vitesse, j'ai une facture qui m'attend avec toute la technologie qui est sur son coup là. Et donc, même si on est dans une même cour, on n'a pas le droit donc de perturber le voisin à certaines heures données. On n'a pas besoin de faire du bruit. On n'a pas besoin d'être à 5 ou à 8 dans un studio. Ce qui met dangereusement à mal la cohésion et la sécurité peut-être du voisin et tout. Si toutes ces techniques, ces règles ont été érigées, on n'a même pas besoin de faire le gendarme derrière quelqu'un avant qu'on ne les respecte. Moi, je pense quand même que ça va venir à notre niveau aussi, mais ça va prendre véritablement du temps. Il revient à chacun de savoir que aujourd'hui, nous n'avons pas besoin forcément de dire que être heureux, c'est d'avoir beaucoup d'argent, l'espèce sonnante, trébuchante. Non, mais lorsque vous sortez et on parle bien de vous, on dit que telle personne est une référence. Nous avons des références au Bénin, par exemple, dans le monde des médias dans lequel nous sommes, je peux en citer, je le fais toujours honneur partout, je passe le doyen Jérôme Carlos, c'est une référence, même on était à une discussion politique, dans l'arène politique la dernière fois, mais cherchant donc des communicateurs pour développer des thématiques, la première personne à qui on a fait référence, c'est Jérôme Carlos, malgré son âge avancé. Donc je pense quand même que lorsque vous faites du bien, lorsque vous vous illustrez très bien dans la société, forcément votre nom restera. Pour en revenir à la chronique, la situation que Maude Johnson a peinte dans cette chronique, j'ai un ami qui a voyagé récemment, qui vit de l'autre côté là-bas de l'Europe, mais la dernière fois il m'a appelé, j'étais au bord de la voie, il attend, ping, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Que depuis que lui est allé en Europe, il n'a jamais entendu ces klaxons-là, parce que chacun emprunte son couloir. Et personne ne veut se dire que je suis pressé, tellement pressé, pour qu'on m'arrête et que je dise que je vais donner de l'argent au policier. Même le policier qui est en train de prendre, par exemple, celui qui est en train de lui donner, vous voyez, c'est déjà... Et peut-être 2, 3, 4 personnes qui sont de l'autre côté et qui observent la scène qui se passe. Je pense quand même que éducation a encore du travail, a encore du pain sur la planche. Nous qui militons pour la promotion des valeurs éthiques et morales dans notre société, nous avons encore du pain sur la planche.
On l'a étant gentil, nous coin, tant qu'il y aura des policiers sur la voie pour réguler la circulation et tant qu'il y aura de contacts entre usagers de la route et policiers, on ne peut qu'assister à ces phénomènes-là, des tentatives de corruption.
Oui, il faut saluer de ce pas le travail remarquable de l'exécutif, du gouvernement, du président Patrice Talon actuellement pour dématérialiser la fonction publique. C'est très important. C'est le contact qui crée la corruption, en un mot. Parce que s'il n'y avait pas de contact, j'ai donné l'exemple de l'Europe, vous savez, il n'y a pas de policiers sur la voie, mais si vous faites essai de vitesse, une facture forcément vous attend parce que vous êtes déjà fiché, on vous connaît. L'immatriculation de votre véhicule, vous serez tranquillement, vous allez garer, on viendra vous déposer la facture.
Oui, mais on le dit, vous êtes en train de peindre un idéal. Quand vous partagez cet idéal avec les compatriotes, eh bien, ils n'hésitent pas à vous dire, ici c'est le Bénin. Le Bénin a ses réalités.
Ah, parce que le Bénin est un pays à part. Ou bien, les droits de l'homme sont partout. Lorsque vous allez aux États-Unis, dans les quatre coins du monde, les valeurs éthiques et morales n'ont pas changé et ne changeront jamais. On dit, tu vas respecter l'autorité. En Chine ou en Amérique, ne me dites pas que le respect de l'autorité n'est pas une valeur. L'abnégation, le travail, la préservation de la vie, le sens élevé de responsabilité, la dignité, l'excellence, ce sont des valeurs. Et donc, ce n'est pas forcément pour les autres, mais pour tout le monde. Ici, c'est le Bénin, d'accord, mais le Bénin doit quand même aussi travailler à entrer dans le Conseil des Nations. Pourquoi est-ce que nous ne restons pas, si tant est que ici c'est le Bénin, pourquoi on ne veut pas rester dans notre Bénin là et ne plus sortir? Pourquoi les autres vont ailleurs et ils ne veulent plus revenir? Si tant est que ici c'est le Bénin, tout ce que vous voyez de beau de l'autre côté, revenez et essayez aussi la chose chez vous, parce que c'est ceux qui l'ont expérimenté là-bas et qui continuent donc d'en faire leur cheval de bataille sont quand même des humains. Ils ont même tête que nous, ils ont une tête, ils ont deux yeux, la bouche, ils ont leur... Ils sont les mêmes, pareillement, c'est des hommes aussi, mais qui réfléchissent. Nous devons réfléchir aussi, tant est que ici, c'est le Bénin.
Jean, Ola étant au coin, vous vous l'avez dit il y a un instant, le gouvernement fait un effort remarquable, il faut le souligner, pour dématérialiser la fonction publique. Et mieux, Jean-Ola Itantonoukouin, le gouvernement a décidé donc d'acquérir des caméras pour essayer de dissuader les fraudeurs usagers de la route. Vous en savez beaucoup. Est-ce que ça va contribuer à corriger les inégalités que nous observons, tant nous avons déjà eu avec ce même gouvernement l'acquisition des alcotest rangés au placard par la suite et qui n'ont pas suffi à dissuader les alcoolos au volant?
Vous savez, Romila de Lobo, c'est l'homme qui est au cœur du changement.
Les alcotest sont devenus quoi, Jean?
Je ne saurais le dire, je ne suis pas un membre du gouvernement. Je pense quand même qu'ils sont habilités à répondre à ces questions.
L'idée, mais on a vu l'acquisition des alcotest utilisés les deux premières semaines par la police républicaine, mais après ça, plus rien. On n'a plus constaté des descentes sur les artères routières pour dissuader pendant les week-ends et même pendant les jours ouvrables les chauffeurs qui s'adonnent à l'alcool, qui boivent exagérément et qui causent plusieurs accidents sur nos routes et qui détruisent les infrastructures routières. Depuis un moment, on n'a plus cette descente sur le terrain de la police républicaine pour dissuader ces chauffeurs éthyliques.
Tout simplement, ce n'était pas la bonne méthode. Vous savez, Romiade Lobo, vous le savez mieux que moi, l'éducation de nos populations est le moyen le plus simple pour atteindre les autres objectifs nobles de l'humanité. Tant que vous n'allez pas investir dans l'être humain, dans l'éducation, voyez la place que l'éducation occupe dans les grands forats internationaux. Lorsque vous allez, quand on parle de l'éducation, on sent véritablement un engouement, mais qu'est-ce qu'on en fait réellement?
C'est le socle de tout développement.
Si nous investissons dans l'éducation, puisque c'est l'homme qui est au centre du développement, il faut véritablement investir dans cet homme-là qui est capable donc d'impulser un changement autour de lui. Vous savez, le socle du développement, c'est d'abord la famille, la cellule nucléaire. Si d'abord votre enfant est bien éduqué à la maison, lorsque vous sortez, il va impacter d'abord ses pairs dans la société, dans la rue. Et de fil à aiguille, vous allez comprendre qu'on parlera bien d'abord de vous. On prendra comme exemple vous. Ça va se propager petitement.
Vous voulez vous dire qu'il faut agir sur l'homme?
Il faut agir inévitablement sur l'homme. C'est le seul moyen, je vais dire le seul et unique moyen. Puisque qui sont ceux qui sont au cœur de ces pratiques dont nous parlons? Ce sont des hommes. Le policier qui est en faction, c'est un homme. Le citoyen indélicat dont Maude Johnson a fait la description, c'est un homme.
Mais quand ça arrange, on cite en bien la France. Mais quand ça n'arrange pas, on dit ici c'est le Bénin. Est-ce que vous pensez que ces comportements, cette attitude, vous pouvez la transposer en France et tenter de corrompre un agent de force de sécurité publique français, un policier français?
Les cultures ne sont pas les mêmes. Et ça, il faut véritablement aussi qu'on fasse très attention. Là-bas, c'est la France, ici c'est le Bénin. Les cultures ne sont pas les mêmes. Et surtout en Afrique, notre culture est essentiellement communautaire. Et c'est cette culture communautaire qui, à un moment donné, plombe un peu le développement de notre cher pays, le Bénin. Vous savez,
il y a toujours un appel qui vient toujours de quelque part.
Toujours de quelque part. Et même quand c'est son propre fils, on n'a pas, qui enfreint quand même à des lois, il faut avoir le courage de dire, ah, attention, ce que tu as fait c'est mauvais, il faut que tu subisses ta peine. À un moment donné, ça se passe de l'autre côté là-bas. Ils sont forts, ils ne regardent pas l'affinité. Ça peut te faire mal, mais reconnais quand même que tu es en erreur et tu dois subir les rigueurs de la loi. Et quand c'est comme ça, je pense quand même que les uns et les autres devront comprendre quel est cet appel-là qui va venir. La culture communautaire ne peut pas faire avancer une nation. Et nous devons comprendre qu'au Bénin, c'est cette culture-là qui continue toujours. En tout cas, je ne sais pas comment je vais le dire.
Pas nous arriérer.
Pas nous arriérer, hein, ou plomber, je vais dire, le développement des efforts de toutes ces associations qui prônent l'éthique, le développement, le bien-être social et tout. Et même, peut-être, les actions aussi certaines actions de éducation. Ce que nous sommes en train de dire ici maintenant, des gens seront à l'écoute et ils sauront que c'est la vérité, la pure vérité. Mais une fois sortis, devant le fait accompli, ils ne seront pas en mesure
de l'appliquer.
Et je pense quand même que, comme l'a dit une partie de la parole de Dieu, n'écoutez pas seulement la parole, mais il faut l'appliquer. C'est dans l'application que vous aurez peut-être votre satisfaction. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, comme on l'a dit, mais il faut tout faire pour l'appliquer. C'est l'application des valeurs éthiques et morales qui nous sortiront véritablement d'affaires.
Jean, Ola étant au coin, je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes passionné des questions d'éthique et de développement. Vous êtes également orienté questions sécurité routière au Bénin. Cette émission va se poursuivre, mais passons Laurent Ladouce, notre consultant, notre expert de l'autre côté de Paris avec qui nous faisons tous les mardis cette émission. Laurent Ladouce partagera avec nous son commentaire sur la chronique de Maudy Johnson et avec la magie des ondes. Eh bien, Laurent Ladouce est en direct depuis Paris. Laurent Ladouce, vous êtes avec nous dans cette émission. Bonjour à vous. Que vous inspire cette semaine la chronique de Maudy Johnson, feu rouge, feu vert? Bonjour à vous, Laurent Ladouce.
Bonjour, chers auditeurs. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi. Je vais faire l'éloge du Béninois ordinaire. Vous l'avez vu, l'éditorial de Maudy Johnson est un bijou de sociologie urbaine. J'ai aimé l'opposition binaire entre le feu rouge et le feu vert, entre le citadin et le rural, l'intellectuel et le manuel, entre la foule et le type ordinaire, devenu l'éphémère héros d'une gaffe absurde. On voit aussi le contraste entre l'état de droit et un esprit resté féodal, mais aussi entre la rationalité et une vision encore magique du monde. D'abord agacé par l'ahurie qui a arrêté le trafic, le narrateur l'observe ensuite avec ironie mais sans mépris. Puis, dans ce bonhomme mal dégrossi, il décèle une pépite de noblesse. Maudy Johnson rend soudain respectable un homme qu'on avait jugé rapidement trop respectueux des puissants pour ne pas être lâche. L'éditorialiste confirme d'abord l'apparence. Le gars est nul. Mais il loue aussi avec pudeur la dignité secrète qu'il perçoit en lui. Que m'inspire cette anecdote? J'y vois une interrogation sur la vraie démocratie. Un discours politique majeur du XXe siècle fait l'éloge de l'homme ordinaire, du citoyen démocratique. Il fut donné en 1942. Deux régimes totalitaires menaçaient alors la démocratie. L'Allemagne nazie et l'URSS stalinienne. Le président américain Franklin Roosevelt en est alors à son troisième mandat. Il a sorti les États-Unis de la Grande Dépression. En 1942, les États-Unis sont en guerre. Cette fois, la démocratie est menacée du dehors. Les milieux conservateurs détestent Roosevelt, homme de gauche, pourtant issu d'une famille aristocratique américaine. Pur produit d'un milieu privilégié, d'une caste, Roosevelt rêve d'un monde plus juste, où la démocratie fera progresser beaucoup plus d'êtres humains vers la dignité. Et son vice-président s'appelle alors Henry Wallace. Cet homme controversé prononce, le 8 mai 1942, un discours qui enflamme les imaginations par son caractère prophétique. Intitulé « Le siècle de l'homme ordinaire », le discours exalte l'idéal démocratique. Certains estiment que la démocratie, au nom de l'égalité, détruit toute forme de distinction et de noblesse, désacralise la société, nous rabaisse tous à un médiocre niveau de producteurs-consommateurs, nous inculque une morale de faible. Wallace affirme le contraire absolu. Pour lui, la démocratie provient d'une vision noble de la condition humaine. Elle confère à chacun une dignité haïe par Staline, méprisé par Hitler. Même la personne la plus ordinaire et modeste peut s'ennoblir et atteindre un rang élevé de développement humain par l'éducation. Pas seulement l'éducation académique, le savoir intellectuel. Pour Wallace, l'être humain le plus banal peut atteindre un haut degré de culture. Au centre de cette culture, la spiritualité élève l'âme humaine. Une âme anoblie, éclairée par les textes sacrés ou d'autres lectures, saura développer des pensées justes, des sentiments profonds et entreprendre chaque jour des actions nobles, voire héroïques. Alors, j'idéalise peut-être l'ahurie béninoise de Johnson. Pour moi, son type croit en la démocratie. On a beau lui dire que c'est un conte de fées, il est prêt à croire qu'en ville, près des lieux de pouvoir, certains vivent déjà le triomphe de l'homme ordinaire par la démocratie. Ce n'est pas encore pour lui. Il connaît l'ère de la démocratie, mais pas encore les paroles. Il se dit qu'un jour, tous vivront cet idéal. Et cela l'enchante. Alors, enchantons-nous, nous aussi, sur l'ère de la musique démocratique. Le musicien américain Aaron Copland, inspiré par Wallace, composa sa célèbre Fanfare for the Common Man, la fanfare de l'homme ordinaire. Écoutons le début en fermant les yeux. Le feu va bientôt passer au vert. L'humanité, faite de personnes ordinaires comme vous et moi, entrera bientôt en fanfare dans le monde idéal. Nous serons libres, égaux et unis. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.
Merci Laurent Ladouce, c'est nous qui vous souhaitons à notre tour une très bonne journée et merci d'avoir partagé ce commentaire sur la chronique de Maudy Johnson avec nous. J'ai une seule question à poser à notre invité en studio, cher Jean-Olaïtan Tonoukouin. Je suis tenté de vous poser cette question que s'est posée également dans son commentaire Laurent Ladouce. Est-ce que vous rêvez, vous particulièrement, personnellement, en tant que Béninois, rêvez-vous d'un Bénin plus juste que la démocratie pourra faire progresser un jour vers le développement?
Oui, je pense qu'il ne rêve pas. On n'est pas un être humain. Nous devons rêver. Martin Luther King a rêvé et son rêve s'est réalisé, même si c'est des années après. Donc je pense quand même que nous devons rêver, nous devons être optimistes, même si ce n'est pas en notre temps, ça va se faire. Et oui, pour répondre à votre question, je réponds par l'affirmatif.
Oui, mais pendant ce temps, plusieurs régimes se sont succédés et tous les chefs d'État ont été unanimes à reconnaître qu'il faut agir sur l'homme, il faut placer l'homme au cœur du développement. Pourtant, nous sommes encore à ce stade où les cadres en arrivent à piller l'économie nationale, a détourné les deniers publics, a tenté de corrompre les agents de sécurité publique, a tenté de violer les règles définies qui régissent le fonctionnement de la société. Avec ce cocktail peint ainsi, avons-nous vraiment des raisons d'espérer tant le président Boni Yayi a dit « changez vos mentalités », le président Kérékou a dit « si vous êtes prêts, je suis aussi prêt, si vous voulez qu'on aille au développement, changez vous-même », et le président Talon qui vient dire également il faut changer les choses, il faut réformer. C'est un désert de compétences. Il faut agir sur l'homme, il faut rechercher la technicité et rechercher la compétence, quel que soit le prix que ça coûtera à l'État béninois. Alors, lorsque vous prenez toutes ces déclarations ensemble, avons-nous vraiment des raisons, de façon très objective, d'espérer?
Non, non, pas vivre ces situations comme étant une fatalité. Je continue toujours pas le dire. Il faut espérer. Nous devons espérer. Et le jour où ça va changer, nous, peut-être, je l'ai dit, on ne serait pas là, on ne sera pas encore de ce monde parce que tout homme naît, grandit et il va repartir. Et donc, je pense que nous devons espérer, mais l'histoire retiendra qu'en 2000, en 2022, peut-être, ou depuis, on dira simplement que dans le millénaire, en tout cas, Romia de Logbo, certains Romia Logbo apprenaient avec l'éducation et tout ça. Donc, l'histoire va retenir quand même que des gens ont fait ce combat-là de changement de mentalité et des gens ont rêvé ce Bénin. Vous savez, aujourd'hui, quand on analyse un peu la situation, on a tendance à croire qu'il y a du deux poids, deux mesures, mais c'est déjà un pas. Oui, aujourd'hui, mais on est plus soucieux de commettre cette certains actes, parce qu'on sait qu'il y a Dame Criette qui est
oui,
là.
Oui, mais Dame Criette n'a pas suffi à dissuader
justement
des cadres.
Il y aura toujours
la
des
corruption à la peau
toujours
dure au Bénin. Chaque jour, on enregistre toujours de nouveaux cadres qui comparaissent devant la Criette pour des faits de corruption, pour des faits de détournement de deniers publics. Et pourtant, cette Criette a été installée pour dissuader les cadres détourneurs. Oh, et on en enregistre tous les jours.
Romain Logbo, il n'y a pas ce pays au monde dans lequel il y a corruption zéro. Il n'y en a pas. Et je pense quand même que nous devons travailler à réduire sensiblement, justement.
Mais vous ne me direz pas, cher Jean Olaïtan Tonoukouin, que la Criette, l'installation a suffi à dissuader.
Non, jamais.
Parce que je vous dirais que le nombre de détourneurs s'est accru. On en trouve presque toutes les semaines aujourd'hui. Et pourtant, on sait combien on se tape quand on va à la Criette. Mais ça n'a pas suffi pour dissuader les cadres. On enregistre toujours des détourneurs chaque jour.
Et c'est pour cela que nous avions dit tantôt qu'il faille véritablement agir sur l'homme. C'est l'homme qui est au cœur du développement. Si vous êtes nommé ou un de vos parents est nommé à un poste de responsabilité, si vous tenez à votre nom de famille, la première des choses d'abord à dire à ce cadre-là, c'est de ne pas salir notre nom de famille. Et ne pas salir notre nom de famille, c'est aussi en même temps, vous qui êtes de sa famille directe, des alliés, des parents, ne l'amenez pas à le faire. En se rabattant toutes les fois, quand il y aura des problèmes, vous aurez des problèmes sur lui. Chacun doit savoir qu'il doit cultiver le sens du travail à son niveau, peu importe ce travail que vous faites. Si chacun essaye donc de s'autosuffire, ne pas compter sur ce cadre-là, qui serait tenté à un moment donné d'aller regarder dans les caisses de l'État, je pense quand même que nous allons nous porter mieux. Et c'est un travail de tout le monde. C'est un travail de tout le monde, comme nous l'avons dit, tout le monde en tant qu'individu. Ce n'est pas parce que Romia de Lobo, aujourd'hui, vous êtes un ami à moi, demain, vous êtes ministre peut-être de l'Éducation, vous avez le devoir forcément de me venir en aide dès que j'aurai des problèmes financiers, sachant bien que vous n'avez pas les moyens. Et donc, je vais commencer par vous traiter de tous les noms. Une fois que je vous appelle une, deux, trois fois, vous n'avez pas le temps pour me recevoir, étant acculé à résoudre les problèmes de la République, encore que quand on parle du Bénin, c'est les 77 communes, c'est les 12 départements. Et donc, déjà, je vais commencer par parler mal de Romuald Lobo. Voilà, aujourd'hui, il ne me connaît plus, il ne fait plus. Il y a tout ça qui font que les gens sont tentés à des moments donnés d'aller regarder au-delà de leur salaire. Et quand nous le disons, on continuera toujours par le dire, c'est l'homme qui est au cœur du développement. Commençons par changer nos mentalités et je pense que le Bénin changera aussi.
À vous entendre, Criette, oui, mais éducation d'abord.
Éducation, forcément, nous l'avons dit. C'est le centre même, c'est le socle même. Il y a même les agents de la CRIET ont besoin de cela, forcément. S'ils ne sont pas animés d'un sens élevé de responsabilité qui est une valeur fondamentale au nombre des 15 contenus dans la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin, ce n'est pas évident qu'ils puissent véritablement accomplir leur mission comme cela se doit. Et donc, je pense que l'éducation, elle est très importante. Le gouvernement devrait soutenir les structures comme Éducation, toutes les associations qui prônent l'éthique et le développement, faire un travail à fond avec ces associations-là, ces structures, et je pense quand même que le Bénin se porterait mieux si on le fait ainsi.
Jean-Olaï Tantounoukoué, on vous laisse conclure cette émission.
Je dirais tout simplement que c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission, et chaque fois que le besoin se fera sentir, je me rendrai toujours disponible pour débattre des questions de l'éthique et du développement. Je voudrais saluer Éducation et Maude Johnson pour tout le travail qu'il est en train de faire depuis un certain temps. Et également vous, Romuald Lobo, pour votre ténacité. Ah oui, ce n'est pas facile, j'en sais beaucoup. Être journaliste éducatif, ce n'est pas facile. D'aucuns sont politiques et ils peuvent rapidement se rapprocher des politiciens pour ce que nous disons. Mais vous, vous avez choisi donc cette voie. Ne vous découragez pas, c'est une voie noble et je pense que c'est la nature qui récompense. Merci donc à tous les auditeurs qui ont pris du plaisir à nous écouter et à notre technicien aussi, je le salue. C'est un véritable plaisir pour moi.
C'est nous qui vous remercions pour avoir bravé cette fraîcheur matinale pour être à la cause de l'éthique et du développement, pour vous préoccuper de l'avenir et du développement de votre pays, de notre pays. Eh bien, c'est nous qui vous remercions, cher Olaï Tantounoukoué. Je rappelle que vous êtes journaliste au Bénin, vous êtes spécialiste des questions d'éthique et de développement. Vous êtes également orienté tout ce qui concerne sécurité routière au Bénin, toutes les questions liées à la sécurité routière au Bénin, tout ce qui a trait ou lié au civisme au Bénin. Vous en êtes le précurseur. On vous a vu plusieurs fois sur des fronts. Merci pour ce combat républicain bénévole que vous faites avec votre jeune association depuis déjà bientôt une dizaine d'années. Félicitations, bon courage à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs, vous l'aurez compris, c'est ainsi que se referme cette émission, ce numéro de Chronique en débat de ce mardi 28 juin 2020. 22. Nous souhaitons beaucoup de courage à nos candidats qui sont dans l'attente de la proclamation des résultats du certificat d'études primaires session unique de juin 2022. Ce sera vendredi 1er juillet prochain. Il vous suffira depuis votre maison d'introduire le numéro de table de votre enfant dans e-résultats que met à votre disposition le gouvernement béninois. C'est une plateforme qui vous permet de savoir si votre enfant a pu réussir à son CEP ou pas. Et c'est ce que disait notre invité tout à l'heure en parlant de dématérialisation de la fonction publique par le gouvernement actuel. Partie technique, Simon Rossi, réalisation Gloria Divessode, coordination éditoriale Urich Vital à Rotondi dans ce studio. Olaï Tantounoukoué, Romuald Lobo, nous vous souhaitons d'excellents moments en compagnie de nos programmes. À très vite pour un autre numéro.
La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Esper, comme l'a dit Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.